Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour une nouvelle émission Crème de la Crème. On va pouvoir pendant 7 heures aujourd'hui évoquer les tombées de la nuit. Je reçois dans quelques instants Morgane Le Gallic, nouvelle directrice du festival qui arrive la semaine prochaine du 5 au 9 juillet, mélangeant toujours théâtre, poésie, art du cirque et puis aussi danse et puis aussi musique. On retrouvera en fin d'émission tout à l'heure Émilie et Emmanuel qui nous parleront de cette troisième édition de Obscura qui se déroule du 28 juin au 1er juillet. C'est proposé par Zéro de Conduite et La Boca et c'est un festival de cinéma argentique contemporain qui se déroulera au TNB et à la Parcheminerie. Mais on commence avec Morgane Le Gallic. Bonne émission. Morgane Le Gallic, bonjour.
Bonjour.
Nouvelle directrice des Tombées de la Nuit. Alors nouvelle, oui, mais depuis quelques mois quand même, depuis le début du mois de mars, c'est ça ?
Tout à fait.
Une succession après 20 ans d'activité à cette même place par Claude Guinart. On a beaucoup croisé le festival et Claude Guinart sur Canal B. Je suis persuadé qu'on croisera beaucoup aussi Morgane Le Gallic et les Tombées de la Nuit dans les 20 ans ou les quelques années qui vont venir. Ça dépendra évidemment. Morgane Le Gallic, vous venez du théâtre de Pantin.
Tout à fait, d'Île-de-France, en Seine-Saint-Denis.
Voilà. Le théâtre, c'est pas forcément la seule chose qui vous anime dans les arts vivants, apparemment.
En tout cas, c'était un théâtre de ville en banlieue parisienne. Et ce qui m'animait aussi, c'était comment être un théâtre dans la ville en banlieue parisienne, qui est une autre manière d'être la ville que le Grand Paris. Voilà. Et on faisait des choses dedans et dehors, le long du canal de l'Ourcq. Qui ressemble à la Vilaine ou au canal d'Illérance, mais en un poil plus construit quand même, un poil plus industriel. Voilà, ça c'est pour le paysage. Et puis c'était un plaisir parce que c'est un super territoire, Pantin, à la porte de Paris.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez postulé pour cette direction des Tombées de la Nuit à Rennes ?
C'est le projet du siècle. Et la ville de demain ? Non. C'était un projet que j'admirais quand j'étais jeune et dans lequel je suis pas mal venue en tant que jeune festivalière, alors qu'il y a beaucoup de Rennaises et de Rennais et de gens de Bretagne et d'ailleurs qui sont venus au Trans faire leur classe. Et ben moi, pour moi, le modèle, c'était les Tombées parce que j'étais passionnée par le spectacle vivant. Et du coup, c'est bien de tenter son rêve à 40 ans, c'est pas mal.
Alors, un mélange effectivement de musique, de spectacle vivant, de spectacle en rue aussi, de cirque, de danse, toutes les disciplines sont convoquées, même les arts plastiques d'ailleurs. Est-ce que cette façon de produire un festival pour les Tombées de la Nuit, c'est un peu la même que celle que vous allez essayer d'utiliser ? Pas forcément de la même façon, mais avec quand même la même envie de mélanger, de jouer aussi, c'est un terme qui était beaucoup utilisé par Claude Guinart. Je crois que vous le prenez aussi volontiers à votre compte.
Qui n'aurait pas envie de jouer, en tout cas, avec Rennes et avec la ville. Il y a cette idée, et il y a dans l'ADN du festival, qui est celui-là, est quand même vraiment facile à respecter, de se dire, je joue avec Rennes, je joue avec la ville, et on peut mettre une proposition depuis l'Hôtel Pasteur, à un endroit de la Vilaine, à un terrain désaffecté. Et ça, c'est ça, l'ADN est tombé. C'est même au-delà de la question de la discipline, ou musique, ou danse, ou cirque, on s'en fiche du moment qu'on... On est dans la ville et dans la rue.
Cette année, ça se déroulera du 5 au 9 juillet, voire un peu plus loin dans le futur, jusqu'au 3 juillet, voire encore un peu plus loin dans le futur, j'ai l'impression, puisque c'est le thème, la thématique, une thématique en tout cas, qui se dégage de cette édition des Tombées de la Nuit. Et je me reporte au programme du festival pour essayer de retrouver le titre le plus incompréhensible, en tout cas le plus compliqué, parce qu'il est compréhensible finalement quand on fait attention, mais le plus compliqué que j'ai jamais lu, de et par la possibilité éventuelle des devenirs envisageables. Ça fait beaucoup d'hypothèses tout ça.
En tout cas, c'est un titre long et compliqué pour parler d'un projet relativement simple qui est de s'attaquer au futur et de lui rendre son sens premier. Le futur, c'est quand même demain. Et est-ce que demain nous fait peur ? Est-ce que demain, c'est l'horizon très très lointain du changement climatique ou de notre propre mort ou de celle de nos proches ? Ou est-ce que c'est juste demain, vivre notre journée de demain ? Et pris comme ça, c'est peut-être un peu moins inquiétant. Voilà, c'est une soirée performative et délirante proposée par un collectif qui s'appelle 3615 Dakota, qui a tout à fait l'esprit intelligent et vif, Vif Argent des Rennais, et qui propose une soirée aux Ateliers du Vent où il y aura de multiples performances à vivre pour s'inquiéter de son propre futur et faire une petite lousothérapie. La lousothérapie, c'est une alternative à la psychothérapie, et ça marche beaucoup plus vite et ça coûte beaucoup moins cher.
Quand j'ai vu apparaître ce nom de collectif, ce spectacle, 3615 Dakota, les mots que je viens de dire, et je ne redirai pas maintenant parce que je les ai perdus déjà et je n'ai pas en tête encore ce nom de spectacle, j'ai pensé forcément à des propositions qu'on avait pu voir venant parfois de troupes belges, parfois aussi de la compagnie des 26 000 couverts, évidemment, qui a longtemps balancé ces spectacles un peu loufoques, voire complètement cinglés ici à Rennes, dedans ou dehors, hein, peu importe d'ailleurs. Ils étaient capables de commencer une adaptation de Shakespeare dans une salle et puis sortir sous un préau parce qu'on allait menacer de tous mourir à cause d'un incendie. Bon, les 26 000 couverts par exemple, ce genre de compagnie, ou bien 3615 Dakota qu'on retrouvera ici à Rennes, ce seront des troupes, des compagnies et des spectacles qu'on pourra voir aussi et que vous aurez envie de ramener au public rennais.
En tout cas, l'esprit de décalage propre aux tombées, et je le dis très sérieusement parce que c'est quelque chose à manier avec beaucoup de sérieux, il sera toujours là et présent. Nos amis de 3615 Dakota, ils sont franco-suisses. L'humour suisse étant quand même un petit peu plus différent de l'humour belge. Et c'est une équipe qui ressemble à celle que vous avez citée, à la différence près peut-être qu'ils aiment bien s'attaquer, mais du coup à des soi-disant sujets de société qui nous obsèdent un peu, le futur, le bien-être, des sujets très, très sérieux aussi parfois comme la France-Afrique, et y intéresser tout le monde par des moyens totalement détournés.
Le futur ne sera pas à décliner comme un fil rouge, j'imagine, avec tous des spectacles des Tombées de la Nuit qui seront en rapport avec ce mot et avec ce qui nous attend quand même.
Non, j'ose pas l'appeler comme ça, mais c'était aussi une édition de transmission, en tout cas, entre deux directions. Et c'était une idée marrante de se projeter dans le futur, ou de se dire c'est quoi notre retour vers le futur, d'explorer aussi ce que Claude avait fait pendant 20 ans, et même ce que les Tombées avaient créé auparavant. Une idée à la fois amusante de retravailler ce futur aussi, c'est par exemple, regardez ce que fait la compagnie Hoari, c'est une compagnie de danse qui est située en Bretagne, et c'est une génération, il y a 40 ans les Tombées étaient là en début d'été, il y avait beaucoup de musique bretonne, puis après quand Claude est arrivé, il y a eu pas mal de changements par rapport à la ligne musicale, qui était nettement moins traditionnelle, et je trouve ça drôle d'avoir cette compagnie-là qui fait une genre de pont entre les générations, et qui aussi défend ce à quoi les générations d'avant n'avaient pas le droit, et qu'il fait de manière complètement radicale et renouvelée.
À propos de musique, évidemment, un versant I Am From La Nuit sera proposé. Il se déroulera dans un lieu qui n'existe pas encore, alors que pourtant il existe depuis très longtemps. C'est le Grand 8, au bord de la voie SNCF, quand on va vers Paris, après le pont Saint-Hélier. Il y a des entrepôts qui étaient un petit peu laissés en déshérence, qui ne servaient pas à grand-chose, et qui vont héberger bientôt une fête foraine quasi permanente. Il était normal que les Tombées de la Nuit s'approchent de ce Grand 8-là, ancien nom du TNB, souvenez-vous, les Rennais, pour y travailler avec la famille Masclet, dont on a vu les admirables manèges au Tabor et un peu ailleurs à Rennes. Ce lieu-là, c'est encore un nouveau terrain de jeu à Rennes, finalement. Il y a toujours des terrains de jeu qui apparaissent, c'est ça que c'est assez fascinant, j'ai l'impression.
Oui, puis c'était très joli ce que vous disiez sur le fait que c'est aussi quelque part un lieu du futur, c'est un lieu qui est en transition, en tout cas entre deux états, entre les collections des Masclets, les manèges, dont un est sur la place Sainte-Anne à Rennes, des collectionneurs de manèges, Régis Masclet et ses fils, qui sont passionnés et qui ont vocation à ouvrir un immense lieu sur Rennes, qui est vraiment une découverte fabuleuse à faire, même si là on n'en verra qu'un tout petit bout. Mais c'est un avant-goût.
Et cet avant-goût, il sera proposé en musique, évidemment. Ce sera l'écrin de ces soirées qui commenceront en fin d'après-midi, quand la chaleur se fera un peu supportable, puisqu'on nous annonce déjà une canicule certaine. Vous serez allégé et puis rafraîchi par la musique programmée à I Am From La Nuit. Là, c'est toujours une collaboration, un travail en commun avec l'association I Am From Rennes. On voit cette façon de travailler avec d'autres, il y a des programmations amis, et puis des dimanches à Rennes aussi qui vont continuer cette année. Tout ça se fera en commun avec d'autres structures ici.
Je pense que les gens le disent sincèrement depuis les masques clairs, justement à cette bouchue d'âme framboine, que les tombées ont couvé des tas de projets. Il y avait un regard à la fois bienveillant et aimant de la part du directeur et de l'équipe sur la vie culturelle rennaise et sur l'envie de partage. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui est à prolonger.
On parlait de rencontres, eh bien on en entend une maintenant, puisque vous pourrez retrouver en concert, ce sera il me semble le samedi 8 juillet, la rencontre entre un musicien anglais et polyglotte et voyageur, et puis un musicien sensationnel lui aussi, et violoniste, et chanteur, et italien. Ce sera donc le très très bon concert, je l'imagine, si on peut en juger par le morceau qui va suivre, Dark Road Down par Justin Adams.
Sick at heart, sick at wars of men. I'm sick at heart, sick at wars of men. I had my fill of trouble. Thank you.
le disait avec Morgane Le Gallic tout à l'heure, désormais directrice des Tombées de la Nuit, et pour longtemps, je l'espère, pour un futur qui commence aujourd'hui ou demain et qui ira encore un peu plus loin.
Pas de présage de ce point de vue.
Mais on va pas faire de bons ni de mauvais présages, on espère simplement. Vous pourrez retrouver bien sûr de quoi vous amuser sur beaucoup de plans différents, on verra comment, peut-être pas tout, parce qu'on va pas évoquer toute la programmation. Celle-ci, vous la retrouverez sur le site du festival lestombeesdelanuit.com. Mais on va pouvoir mélanger art plastique et fanfare, ce qui est tout à fait curieux, je suppose. Ça n'arrive pas souvent qu'un artiste plasticien se dise, tiens, et si on faisait jouer par une fanfare des morceaux de techno, des morceaux de 808 State, de KLF, et puis qu'on les rendait, ces morceaux, encore plus populaires, en tout cas qu'on les rendait à une autre portion du peuple, pas forcément ceux qui vont dans les rave parties, mais ceux qui pourraient être surpris à danser sur de la techno.
Pour rendre à César ce qui est à César, ce projet c'est aussi une commande entre guillemets du coup de nos collègues des musées de Rennes et notamment Sophie Kaplan à la Criée et les Beaux-Arts et le FRAC qui nous ont sollicité en nous disant on programme Jérémy Deller qui a été un des artistes les plus inventifs de ces 20 dernières années du point de vue des arts plastiques, et effectivement il a mené ce projet, il a proposé à des harmonies traditionnelles de devenir des vrais orchestres d'acid brass et de reprendre des titres phares de l'acid house. Et nous c'est une fanfare rennaise, la fanfare des Volcanics, qui a accepté de se prêter au jeu, et ce sera le dimanche 9 juillet pour la journée de clôture de concert du festival dans Am From la Nuit. Voilà, c'est une surprise de commande, et aussi les paradoxes que les tombées aiment bien mettre en avant. Voilà, puis on a des collègues qui sont forts joueurs aussi là, donc c'est un joli projet à découvrir.
Vous allez entendre d'abord un extrait d'une captation au son calamiteux, je vous préviens déjà, mais ça va pas durer très longtemps, c'est juste pour vous donner ce document en fait d'une version live en Angleterre par une fanfare qui jouera le même morceau que sa version originale que vous entendrez juste après What Time Is Love par The KLF. Vous retrouverez le 9 juillet ce projet Acid House en version fanfare à 17h15 au Grand 8, justement, précisément situé au 20 rue Pierre Martin, c'est-à-dire juste en face de l'école maternelle Kinle. Oui, on est obligé de préciser aussi de manière aussi prosaïque que ça, parce que c'est pas encore identifié, et voilà, c'est pas encore le futur. C'est maintenant qu'on le prépare, donc vous saurez bientôt où c'est le Grand 8, mais en y allant d'abord.
What time? time is love? What time is love? Love, 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 love. What time is love? Time is love.
À l'instant, la version originale de What Time Is Love par The KLF qui sera jouée en version fanfare par quelques musiciens rennais de la fanfare Volcanics dans ce projet Acid House de Jeremy Deller. Tout ça en partenariat avec La Criée, notamment La Criée et les musées de Rennes. On continue à parler avec Morgane Le Gannic de cette programmation là. Est-ce que on se dit pas quand même un moment, mais ils vont arrêter de me parler de Claude Guinart quand même, ces journalistes, ces personnes que je croise et qui vont forcément me pousser dans les pas de cet ancien directeur du festival, où finalement c'est pas si compliqué de se dire non, mais je veux continuer à pas forcément invoquer Claude Guinart, mais à proposer un décloisonnement total comme ça, une envie de jouer permanente, et puis aller là où on ne nous attend pas forcément.
En tout cas, je peux pas répondre à la première partie de la question, mais en termes d'héritage, je pense qu'effectivement, il y a quand même pire. Et c'est plutôt heureux de se dire, c'est un festival qui a décloisonné, qui a essayé, qui a un laboratoire d'essai, et c'est ça qui est excitant et intéressant. Et après, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas des choses différentes non plus. Du coup, je m'en sors par cette pirouette, qui est un peu politique, mais ouais, c'est la meilleure réponse quand même.
Il y a une idée de compagnonnage quand on est à la tête d'un événement comme celui-ci. En tout cas, c'était à nouveau. Je cite encore Claude Guinard, faut que j'arrête, c'est moi hein, qui le fait. J'arrête de le faire, mais une idée de compagnonnage où on voyait certaines troupes, compagnies revenir d'une année à l'autre ou d'une année dans les cinq suivantes, peu importe. Et c'était par exemple la compagnie des 26 000 couverts, c'est par exemple la compagnie Opus, et j'en passe. Est-ce que aussi vous, Morgane Le Gallic, vous avez envie de faire jouer et rejouer quelques spectacles dont vous connaissez bien les auteurs pour les avoir invités à Pantin par exemple ou bien pour les avoir découverts depuis et vous êtes dit qu'il faut les montrer le plus possible?
En tout cas, compagnonnage, oui, fidélité, encore plus. J'ai envie de découvrir de nouvelles équipes aussi, j'arrive dans une nouvelle région. Donc ça, c'est un des points positifs. Il y a plein de nouvelles personnes à rencontrer, même si en Île-de-France, on en croise déjà pas mal. Oui, il y aura des fidélités, comme cette équipe au nom un peu de soucoupe volante que sont les 36-15 Dakota. Comme Chloé Molia aussi, qui est une artiste qui est déjà venue au Tombé, que moi j'ai beaucoup accompagnée, dont la compagnie est située en Bretagne. Je pense aussi aux filles de Rohari. À des équipes internationales, voilà. Il y aura le contexte est peut-être encore un peu plus difficile aujourd'hui pour les artistes par rapport à l'époque où Claude était arrivé. Il y a plus de concurrence encore, donc oui, il faut des fidélités et il faut du renouvellement aussi. C'est un peu un des sujets d'aujourd'hui partout dans le spectacle et dans la musique, ainsi que la présence de la jeunesse dans le public, qui paraît-il est le sujet de tout le monde depuis les festivals de musique électronique jusqu'aux grands festivals de spectacle vivant.
Et est-ce que, par exemple, le jeune public pourrait être le principal intéressé par une nouvelle relecture du classique de Shakespeare, Roméo et Juliette?
Le jeune public, je ne sais pas, les ados et les adultes, certainement. C'est quand même Roméo et Juliette, avec des phrases explicites qui, certes, datent du XVIe siècle, mais elles sont quand même relativement explicites et pas tout à fait pour les 8-10 ans, même si je sais que tout le monde a déjà tout vu sur les réseaux sociaux. Mais c'est le principe, d'ailleurs, de ce Roméo et Juliette qui est adapté en stade de foot et à la modernité d'aujourd'hui, à l'amour sur les réseaux, qu'on présente du coup au stade Rapatel pendant 2 soirs. C'est le Roméo et Juliette du collectif Lincébus, et on prend parti soit pour la famille des Capulet, soit pour la famille des Montaigu, et c'est enjoué comme un match de foot.
Toujours sur le plan des classiques revisités ou transformés ou complètement dynamités, la compagnie Marius Belge, qui a déjà donné du Pagnol, N'en veux-tu, n'en voilà, j'ai envie de le dire comme ça, eh bien, va cette fois mélanger Alfred de Musset et Georges Sand. C'est une façon assez particulière de présenter les deux textes mélangés comme ça. Comment ils ont fabriqué ce travail-là?
Le connaissez, spectacle est en création cette semaine, donc ce sera encore une fois un classique français à l'accent belge, parce que ce sont des Belges flamands et qu'ils ont l'accent flamand. Ils retravaillent souvent leurs textes pour aller vers le plus essentiel de textes qui sont parfois un peu datés, dont on a oublié les contextes politiques. Et l'idée, je pense, de travailler sur Musset et Sand aussi, c'est d'inspirer c'est le texte de Georges Sand qui avait inspiré Alfred de Musset. Voilà, ça c'est sur le travail un peu dramatique. Et après, le travail de jeu, il est resserré, on est dans un gradin en bois, on est au cœur de l'action, on boit du vin italien au début du spectacle pour se chauffer et pour être dans l'esprit d'un complot italien qui va être très rapidement mené.
On va écouter de la musique bretonne, mais pas forcément la même que celle qu'on entendait il y a longtemps, au XXe siècle. En fait, à la fin du XXe siècle, Les Tombées de la Nuit proposaient plus de musique bretonne, c'est possible. Mais là, vous allez l'entendre mélanger avec du jazz, avec de la musique électronique. C'est le groupe Fleuve, le titre Casa. Vous les retrouverez le dimanche 9 juillet, où ça, toujours au Grand 8, 20 rue Pierre Martin, en face de l'école maternelle Kinleu. We'll be right back. Vous l'avez compris, les fins de soirée musicales, en tout cas, se feront du côté du Grand 8, près de quelques manèges de la famille Masclay. On ne sera pas encore dans la grande étendue totale de ce qu'ils nous proposeront bientôt, mais là, ils commencent déjà à préparer un joli cocon, un joli écrin à ces formations que vous pourrez retrouver programmées par la direction de Foire Rennes. Je crois que c'est Céd Bouchu qui s'occupe de la sélection de ces groupes que vous retrouverez là-bas, et y compris de la sélection qui sera très très très, j'imagine, explosive de DJ Martin le 7 juillet, il me semblait. Bon, on retrouvera tout ça sur le site des tombées de la nuit, évidemment. On continue, on va terminer sans doute cette brève discussion avec Morgane Le Gallic, directrice des tombées de la nuit, avec quelques autres spectacles qui vous seront proposés. Il sera question, par exemple, de se rendre compte qu'il existe des graffiteuses qu'on ne connaît pas, et puis que certaines femmes ont été complètement oubliées lors de l'écriture des livres d'histoire et qui ont tout de même participé à l'histoire de la France pendant la Révolution française. Elle nous parlera de ces oubliées-là. Je sais qu'il y a une artiste rennaise, Léa Chevrier, qui elle travaille sur les femmes oubliées de la composition du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Il était temps, en fait, que ça arrive. Qu'on les réhabilite, ces artistes-là.
J'étais en train de me dire qu'il y avait un parallèle entre... Parce que le spectacle d'Hortense Bellotte sur les oubliés de la Révolution, c'est aussi un peu sur les losers de la Révolution. Est-ce que les femmes sont des losers ou est-ce que les losers sont des femmes? Je ne sais pas, mais malheureusement, l'histoire a quand même fait souvent que les deux se rejoignaient, ou en tout cas qu'elles étaient particulièrement opprimées. Voilà, mais elles s'amusent entre la figure de l'opprimé et la figure du loser. Mais globalement, il y a un travail dans les oubliés de la Révolution, qui est une conférence spectaculaire et performée d'Hortense Bellotte, qui est absolument génialissime et jouissive à voir, qui sera ici même dans le 4 bis. Il y aura une conférence sur le graphe le vendredi 7 juillet, une autre qui jouera deux fois sur les oubliés de la Révolution, depuis le Chevalier Déon, ou rares enfants de Marie-Antoinette et Louis XVI qui ont survécu. Les conférences d'Hortense, elles sont pop, fun et décalées pour parler de l'histoire. C'est des grands moments, en général, de spectacle.
J'ai pu, en parcourant le programme riche, avec peut-être une plus grande densité, j'ai l'impression, c'est-à-dire que les compagnies restent plus longtemps aussi, et on a plus l'occasion de les voir, peut-être moins de spectacles dans l'absolu, mais plus de possibilités de voir les spectacles.
On essaye qu'il y ait de plein de propositions. Il y en a un qui ne jouera quand même qu'une seule fois, c'est Ligne ouverte de la compagnie Basinga, parce que là, on l'installe sur l'esplanade Charles de Gaulle. C'est un très gros montage et c'est une traversée à 30 mètres de haut et sur 200 mètres de longueur. Donc celui-là, on peut ne le programmer qu'une seule fois.
Et pourquoi je n'ai pas fait référence évidemment à ce spectacle qui donne carrément son visuel à l'édition des Tombées de la Nuit cette année?
On marque le coup parce que c'est notre grand événement de cette année. Que c'est exceptionnel qu'on puisse réaliser cette traversée sur Rennes. Il y a déjà eu, je crois, des escalades de l'hôtel de ville. Là, une traversée de cette ampleur et de cette longueur et de cette hauteur, je pense qu'il n'y en a pas encore eu. Donc c'est une première et on est ravis de l'accueillir.
Parmi les propositions qui donnent vraiment envie de se précipiter à leur découverte, il y a Habiter n'est pas dormir. Ça va être une proposition évolutive, Place Hoche. On peut y passer peut-être 30 heures pendant la durée de la présence de la compagnie. On verra jamais la même chose.
30 heures, ça fait carrément plus qu'une journée de 24 heures. Je peux pas promettre ça, mais par contre, ça joue de 14 à 19 heures, puis à 22 heures le soir à nouveau. Du coup, au moins 5-6 heures.
Mais entre l'installation, le démontage, le jeu. Et...
Ah, on est sur du au-delà du. On a dépassé le concept de jour.
Oui.
Tout à fait. Oui, c'est bien. Habiter n'est pas dormir. Et puis, on est aussi dans cette notion dont vous parlez très bien de. Le temps aujourd'hui est complètement dissolu entre nos vies privées et un peu nos intérieurs et le télétravail et l'espèce de connexion permanente qui nous donne, est-ce qu'on habite vraiment là où on habite? Et habiter n'est pas dormir, inverse la proposition, c'est un appartement à vue en pleine rue, là ce sera Place Hoche, il n'y a pas plus central à Rennes, et on croise des personnes dans la journée, ce sera juste des petites silhouettes comme ça, quelqu'un en train de se brosser les dents, quelqu'un qui passe des heures dans sa salle de bain, et le soir tous les modules de la salle de bain au salon sont rassemblés et les situations s'inversent. Les femmes boivent des coups au salon et les hommes se rasent dans la salle de bain. Que va-t-il se passer à la fin de la soirée? C'est un peu ça le pitch.
C'est presque une partie de Cluedo en fait. Non. Non, vraiment pas. C'est vraiment pas une partie de Cluedo.
C'est vraiment pas une partie de Cluedo, ou alors une partie de Cluedo effectivement un peu queer, un peu détournée.
Bon, vous pourrez évidemment voir ça et beaucoup plus, ce qu'on a évoqué avec Morgane Le Gall, qui est encore plus pendant le festival des Tombées de la Nuit. Ça commence mercredi 5 juillet et ça se termine le 9 juillet. Mais en fait, il y a un petit bonus, quelques jours de plus pour le Wall of Fame de Studio Superbe, qui eux s'amusent avec les dernières technologies, celles qui font frémir, celles qui nous font dire « Est-ce que ChatGPT va me remplacer, moi qui suis en train de vous parler là ?» Peut-être, peut-être bien, on verra ça. Mais en tout cas, ils ont eu envie de vous faire chanter, même si vous le faites comme une casserole habituellement.
J'aime bien cette idée de dire reprendre la main sur l'intelligence artificielle, parce que Wall of Fame, on y est presque, c'est presque c'est effectivement le genre d'attraction, installation qui nous fait dire que l'intelligence artificielle, on peut aussi prendre la main dessus et en faire quelque chose d'intéressant. Dans cette attraction, installation, on vous propose de vous prendre en photo. Donc Yann, vous serez pris en photo ensuite par les techniques du morphing et du deepfake, je crois, j'ai retenu le terme, mais ne me demandez pas précisément ce que ça veut dire.
Voilà, c'est simple, le morphing qui va faire bouger les lèvres votre avatar comme si c'était vraiment les vôtres avec exactement les mêmes mouvements.
Totalement bien décrit. Et on reprendra non pas des tubes pop des années 80, mais bien des airs d'opéra, ce qui est un tout petit peu plus original.
On se retrouvera évidemment pendant le festival, vous qui nous écoutez. On ira aussi au festival, évidemment. Canal B vous donnera rendez-vous aussi pour quelques moments avec certains artistes de l'édition. Ce sera le 5, le 6, le 7 de 12h à 13h et le 8 juillet. Eh bien, à 14h, merci Morgane, je pense qu'on va se recroiser pendant le festival, parce que vous aurez eu envie d'aller jouer avec les Rennais aussi, et aller voir comment on aura mis en place cette proposition dans la ville.
Et dans les nombreuses années qui suivent.
Ça c'est sûr. Merci beaucoup, on termine en musique avec le fameux Fairy Tales in Yogurt, musicien qu'on a pu croiser auprès de formations nantaises ou rennaises, qui est un petit génie d'une écriture pop, mais quand même un peu expérimentale, la preuve avec ce titre Shape Mistakes. Vous le verrez le 7 juillet au Grand 8, soirée la plus riche musicalement peut-être, puisqu'il y a aussi Thomas Gerlet, Gus 2 et les sélections de DJ Martin, mais peut-être vous retrouvez encore plus de concerts sur le site lestombeesdelanuit.com, donc faites-lui plus confiance qu'à moi. Merci Morgane.
Merci.
Crème de la crème, aujourd'hui on aura droit à une présentation du festival Obscura, 3e édition, du 28 juin au 1er juillet, à retrouver au TNB et à la Parcheminerie. C'était à l'instant eh bien, un morceau de musique composé, créé par Bob Lachapelle, illustrant le film Granular Film Beyrouth, un film de Charles-André Coderre, que vous verrez dans la première programmation ce mercredi 28 juin de l'édition numéro 3 pour le festival Obscura. On va en parler avec vous deux, Émilie et Emmanuel, tous deux membres de l'organisation éminente d'Obscura, festival qui est porté par Zéro de Conduite et le Labo K. Qu'est-ce qui va être obscur finalement et qu'est-ce qui ne devrait plus l'être pour tous ceux qui auront participé au festival après qu'il aura eu lieu?
Alors bonjour, obscur, je ne sais pas si toutes les œuvres qu'on présente seront obscures, mais en tout cas l'idée du festival, c'est un panorama du cinéma argentique, réalisé en argentique et tourné en argentique, contemporain, international. Donc on va avoir, on va pouvoir montrer différentes œuvres de cinéma, à la fois des performances, des films, des installations, des expositions et des conférences autour de cette pratique du cinéma argentique.
Comment vous êtes arrivés, vous deux, Émilie, Emmanuel, au cinéma argentique, alors que vous êtes d'une génération qui a vu apparaître les formats numériques plus pratiques, plus transportables? Je pourrais donner d'autres arguments publicitaires comme ça qui ont été avancés, mais vous, qu'est-ce qui vous a fait revenir peut-être en arrière un petit peu?
Eh ben, moi, j'ai découvert l'argentique déjà avec la photographie, donc le labo, la chambre noire, etc. Et au fur et à mesure des expérimentations, j'ai rencontré des gens qui, eux, ont travaillé le film. Et comme ça reste dans les mêmes procédés, je me suis tournée petit à petit par l'image en mouvement et l'image fixe aussi dans le cinéma.
Oui, je crois que ça a commencé aussi par la photo. Et l'idée, je crois que c'est aussi une autre méthodologie de tournage, une autre manière de faire, à la fois voilà, sur le côté précieux de la pellicule, c'est-à-dire qu'on tourne très peu, on a très peu de rush, et sur l'idée aussi que souvent quand on tourne en argentique, le son et l'image sont désynchronisés, donc on va utiliser une matière sonore haute que l'image pour faire sans trop choquer les deux matériaux. Et il y a aussi tout un aspect qui nous semble essentiel, c'est-à-dire la partie de développement, et notamment de développement artisanal, c'est-à-dire qu'on va développer les films dans des produits chimiques ou avec des plantes, avec différents traitements, que ce soit en couleur ou en noir et blanc, et on va essayer de créer sa propre image, en tout cas sa propre identité visuelle, sa singularité à travers l'image. Et c'est vraiment le contact avec la matière, c'est-à-dire que c'est presque un travail de plasticien finalement, c'est entre le cinéma et l'art plastique. Et ce contact avec la matière permet aussi de faire révéler des choses dans l'image qui presque déréalisent le réel, en tout cas qui font un pas de côté avec des films qui représentent le réel. Mais voilà, on est du côté des fantômes, on est du côté de la mémoire évidemment, mais on est ailleurs, quoi.
Vous allez pouvoir me parler peut-être de ce premier programme, mercredi 28 juin, Nouvelles Impressions du Canada. Sachez que moi j'ai vu un extrait d'un film qui sera montré dans cette sélection-là, de Charles-André Coderre, et qui lui, il donne des ateliers comme ça à Montréal, détérioration chimique sur found footage, et il travaille directement sur la pellicule. Alors ça prolonge aussi ce que tu disais, Emmanuel, ça peut être remixé, gratté, délavé, colorisé, et même enterré. On peut enterrer sa pellicule pour la ressortir et qu'elle soit transformée et que ça produise quelque chose qu'on n'avait pas imaginé avant.
Oui, c'est beaucoup d'expérimentation, c'est-à-dire, et c'est laisser aussi énormément de place au hasard, et au hasard du temps et de la temporalité. Et donc, il y a énormément de films qui relèvent en fait de ces expérimentations autour de la chimie, autour de la dissolution de la matière. Et notamment dans la programmation Nouvelles Impressions du Canada, donc qui sera présentée mercredi à 20h au TNB. En fait, on a donné une carte blanche à Éric Touvenel, qui est professeur d'université à Nanterre, qui a travaillé très longtemps à Rennes, et qui est en lien aussi avec le TNB, avec différentes programmations qu'il propose chaque année. Et donc, on a la chance de pouvoir accéder à cette salle qui est très belle, qui est la salle Louis Jouvet, donc la grande salle du TNB, et qui est équipée d'un projecteur 35 mm. Et notre envie, c'était aussi d'être en lien avec le TNB, c'était aussi de pouvoir avoir la possibilité de projeter ces films-là en 35, qui sont assez rares, et pour le coup, il faut vraiment une vraie salle de cinéma équipée en 35 mm. Donc, ce sont des films, il y a 5 films, cinq démarches singulières et complémentaires qui révèlent de l'image et de ses puissances. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir cette programmation autour du Canada, autour des films qui se sont faits ces 10 dernières années, on va dire. Et ça sera donc une carte blanche pour Eric Thouvenel. Voilà.
On va écouter encore un petit extrait de la bande-son de ce film, Granular Film Beyrouth, de Charles-André Coderre, où on peut apercevoir peut-être des vestiges de films touristiques, peut-être de Beyrouth. On voit des palmiers, on voit des immeubles, mais tout ça est complètement transformé, magnifié, on peut le dire aussi, assez impressionnant. Je vous conseille d'aller faire un tour au TNB mercredi pour découvrir ces impressions nouvelles du Canada. Parlons du festival Obscura, 3e édition. On avait pu évoquer la première édition dans cette émission. On en parle avec Émilie et Emmanuel. C'est proposé par Zéro de Conduite et le Labo K. On pourra aussi bien voir des archives familiales que scientifiques, du passé ou du futur. Alors, je ne sais pas, vous n'avez pas trouvé encore des films qui viennent du futur. Ça, je ne pense pas qu'il y en ait encore disponible. Les villes, les déserts, les mythes, le quotidien, tout ça qui se teinte de poésie ou même d'ethnographie. En fait, c'est le monde entier qui se retrouve sur cette pellicule. Finalement, il suffit juste de gratter un petit peu et il se passe quelque chose.
C'est ça. Ben, les films qu'on vous propose sont issus d'un appel à films. Donc, on a reçu plus de 300 films cette année. Et donc, avec une équipe de 5 personnes, on a regardé tous ces films et on en a extrait certains pour fabriquer cette programmation. Donc, on a fonctionné à la fois au coup de cœur sur des films qui nous touchaient particulièrement, mais aussi on a essayé de créer des programmes qui se répondent et qui proposent une manière d'aborder et d'appréhender l'argentique différente. Donc, comme vous en aviez parlé tout à l'heure, des films de found footage qui viennent retravailler des images retrouvées. On a aussi un film enterré, c'est Bye Bye Now de Louise Bourque, par exemple. On a essayé de varier les approches de l'argentique dans ces différents programmes. Donc ça, c'est les programmes qui sont présentés à la Parcheminerie de jeudi à samedi.
Il n'y aura pas seulement des projections pendant Obscura, c'est ça qui est assez appréciable. Vous retrouverez notamment une performance live par Nicolas David et Léo Prudhomme. Nicolas manipulera des diapositives, tandis que Léo, qu'on a croisé dans divers projets musicaux, notamment Léo 88man, eh bien lui sera au piano. On peut évoquer une performance d'approche expérimentale.
Oui, il y a aussi l'utilisation de projecteurs 16 mm par Nicolas David. Et en fait, ça nous semble très intéressant aussi d'avoir cette vision du cinéma élargi, enfin on appelle ça comme ça, en termes de performance.
C'est une manière de proposer aux spectateurs et aux spectatrices de voir un film en train de se faire aussi, puisque on propose des images du son qui vont émerger ensemble.
Ça n'a jamais été montré comme ça et ça ne sera jamais plus montré comme ça à nouveau.
Exactement.
En fait, ça sera toujours différent. On voit aussi un focus assez fort sur les femmes réalisatrices de cinéma féministe ou non d'ailleurs, mais en tout cas on voit un focus sur Cécile Fontaine, son cinéma, et puis celui que j'évoquais, ce focus sur les théories et pratiques du cinéma expérimental ou féministe, en tout cas ça sera le samedi 1er juillet. On voit quand même une volonté de remettre un petit peu sur le devant de la scène peut-être des artistes oubliés, et c'est pas le cas seulement dans le cinéma expérimental, c'est à l'œuvre aussi dans la musique classique, c'est aussi pareil pour les graffiteuses. Il était temps, en fait, qu'on puisse les voir à nouveau.
En effet, surtout dans des domaines comme ça qui sont assez techniques, c'est important de retracer l'histoire aussi des films faits par des femmes. Donc c'était une volonté aussi pour cette édition, pour nous. Et on a la chance d'avoir Cécile Fontaine avec nous qui sera présente. Et en ce moment même, nos collègues font un workshop avec elle où ils apprennent à manier la pellicule Donc ils décollent l'émulsion, qui viennent scotcher à nouveau sur la pellicule pour refabriquer des images comme un puzzle miniature sur la bande 16 mm. Et donc on présente une partie de son œuvre. Bon, elle a fait plus de 50 films, donc là on en a 7 ou 8, mais ce sera une bonne manière d'aborder son œuvre puisque on va de 1986 à 2004. Donc
on peut imaginer qu'un public intéressé par ces expérimentations dans tous les sens autour de l'image argentique, du cinéma et de la diapositive argentique, qui pourrait être un peu réduit quand même. Est-ce que vous voyez, vous, au contraire, que ça touche pas mal de monde, finalement, des gens qui expérimentent dans leur coin, et ça, c'est quelque chose d'assez populaire quand même, ou vous essayez justement, parce que ça ne l'est pas beaucoup, de le rendre plus populaire?
On aimerait bien que ça le soit plus, c'est sûr, mais je pense que ça touche à plusieurs choses, à la fois à la poésie, à la politique aussi, à la fois dans la manière de faire et aussi des sujets, des films, qui sont aussi parfois très engagés.
La manière de faire, parce que peut-être ça s'affranchit complètement de lignes directrices faites par les institutions et la formation et l'école aussi.
Ouais, exactement. C'est souvent des films qui n'ont pas de financement, qui sont faits par des artistes de manière autonome ou collective. Mais en tout cas, il y a quand même une volonté de travailler un peu différemment en dehors de l'industrie cinématographique classique, et à la fois dans des choix de narration qui sont différents, et aussi dans l'usage du son. Enfin voilà, donc ça touche quand même à diverses choses, même à la littérature, à la peinture, à l'abstraction parfois, à la dissolution du réel, comme on parlait tout à l'heure. Donc je pense que ça peut intéresser vraiment pas mal de gens, à la fois évidemment des étudiants qui sont en art, mais aussi des gens qui sont sensibles à la musique, à l'improvisation, à la poésie.
Mais on sent aujourd'hui, ne serait-ce qu'à l'échelle de la France, une émergence de labos. Donc il y a quand même de plus en plus de personnes qui s'intéressent au cinéma argentique. Et après, je ne sais pas si c'est dû à ça, mais à la première édition d'Obscura, on avait reçu peut-être 120 films, que là aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on en a reçu plus de 300. Donc on voit aussi peut-être qu'il y a un développement de films argentiques.
Alors, est-ce que c'est aussi parce que pas mal de films anciens refont surface aujourd'hui, ils n'ont pas de valeur marchande, les musées n'en veulent pas forcément parce qu'ils ont déjà ces bandes-là, et on se retrouve avec des bandes qui réapparaissent et qui ne servent qu'à être justement réutilisées, transformées, malaxées, mixées? Enfin, je sais pas, c'est moi
peut-être,
qui imagine.
Ouais. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une tendance au found footage et de se réapproprier ces images-là dans le cinéma qu'on propose, qui est assez forte, quoi.
Vous aurez l'occasion de les découvrir, ces films. Alors, ils ne sont pas dans une narration habituelle, ça ne passe pas sur Netflix, évidemment, on ne parle pas de ça du tout. On parle plutôt de films qui vont être montrés dans des galeries d'art, mais que vous allez peut-être aussi pouvoir réaliser vous-même, en tout cas vous inspirer de ce que vous allez voir. Vous faites aussi des workshops, des ateliers, là vous en parliez de quelques collègues qui étaient en ce moment avec une réalisatrice. Il se passe quoi pour le public qui viendra à Obscura, en plus des projections et des performances?
Très bonne question, puisque ce n'est pas dans le programme, mais c'est une petite surprise. Vendredi, à partir de 14h, on a une des réalisatrices invitées qui proposera pour le public un workshop autour du phytogramme. Donc ça, c'est une manière d'utiliser les végétaux sur la pellicule pour en faire une œuvre cinématographique. Donc tout le monde est invité à passer à ce moment-là à la parcheminerie et on pourra tester ces choses-là, quoi.
Vous retrouverez l'intégralité du programme sur Obscura, avec un K, obscura.fr. Merci beaucoup à vous deux, Émilie et Emmanuel, d'être venus nous présenter cette 3e édition d'Obscura. Et nous, on termine comme on a commencé tout à l'heure, avec encore un peu de musique de Bob Lachapelle illustrant le film Granular Film Beyrouth de Charles-André Coderre. Je vous rappelle, vous pouvez le voir mercredi soir au TNB. Bonne édition d'Obscura. C'est ainsi que Crème de la Crème s'achève aujourd'hui. Dans l'émission de mercredi, nous retrouverons Soisy Globaille pour une chronique littéraire. Vous aurez droit aussi à une interview d'une artiste exposée au Théâtre du Vieux Saint-Étienne grâce à l'Electronica dans l'exposition collective Muable. Et puis nous retrouverons aussi Eric Gouzanet et Antoine Amoureux du Cinéma Larvor pour leur chronique Un fauteuil pour deux. À bientôt pour de nouvelles aventures. Retrouvez playlists et podcasts sur canalb.fr. Ciao.